France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troyano, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre et Cassandre Puel. À la technique, c'est Dalia. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée au rôle de la prison dans les politiques sécuritaires et répressives des États. Aujourd'hui, en Tunisie, les abus de la détention préventive.
Parce que j'étais au prison et je sais de quoi il s'agit. Le prison, c'est un lieu... on ne peut pas vivre là-dedans. Surtout maintenant, avec la chaleur, l'accès à l'eau, l'accès aux sanitaires, tout ça, ça reste vraiment très très minimal.
J'ai passé 3 mois, 19 jours en prison parce que je suis homosexuel. Ils m'ont frappé. Ils m'ont dit, tu es pédé, tu vas voir ce qu'on va faire pour toi. Tu n'es pas un homme, tu fais honte et tout.
Pour les prisonniers politiques, il y a d'énormes pressions. Par exemple, les caméras de surveillance qui tournent 24 heures sur 24 dans leurs cellules. Alors que les organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme ont rappelé que c'est interdit.
Vous pensez qu'il est injuste d'être puni parce que vous croyez savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je comprends, nous sommes tous persuadés de le savoir, disait le narrateur innocent d'En attendant les barbares de J.M. Kwedzi à son compagnon de cellule, lui aussi emprisonné à tort. À l'époque, je n'avais aucun doute là-dessus. Chacun de nous, hommes, femmes, enfants et peut-être même le vieux cheval qui tournait la roue du moulin, savait ce qui était juste. En venant au monde, chaque créature porte en elle le souvenir de la justice. Mais nous vivons dans un monde de loi, un monde où il faut se contenter de solutions imparfaites, nous ne pouvons rien y faire, nous sommes des créatures déchues, réduites à appliquer mais sans laisser s'évanouir en nous le souvenir de la justice. Alors il n'est pas question de dire ici qu'en Tunisie tous les détenus sont innocents, en revanche ils sont nécessairement arithmétiquement un certain nombre puisque 50% des prisonniers le sont à titre préventif sans que leur culpabilité n'ait donc été officiellement établie. La Tunisie a fait de la détention préventive une pierre angulaire de sa politique répressive, en particulier contre les opposants au pouvoir, dénoncent aujourd'hui de nombreuses associations de défense des droits de l'homme. Depuis l'élection du président Kais Saied en 2019 et surtout depuis son coup de force institutionnel 2 ans plus tard, la répression des opposants et des corps intermédiaires s'est durcie et de nombreux militants, politiques, avocats, journalistes accusés de complot contre l'État ou de terrorisme se retrouvent dans les prisons qui s'étaient pourtant largement rouvertes après la chute de Ben Ali. Bonjour Atem Nafti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes essayiste, chercheur auprès de Noria Research et auteur de Notre ami Kais Saied, essai sur la démocrature tunisienne, paru l'année dernière aux éditions Rive Neuve. Votre travail est très largement nourri à la fois de votre travail en Tunisie, mais aussi de la lecture et des travaux de Vincent Gesser qui est avec nous en ligne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes chargé de recherche CNRS à l'Institut de Recherche et d'Études sur les Mondes Arabes et Musulmans, l'IREMAM AMU d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit notamment avec Amin Halal, Tunisie, une démocratisation au-dessus de tout soupçon. C'était déjà avec un point d'interrogation et c'est un livre qui portait déjà sur la persistance des réflexes autoritaires en Tunisie. Alors il se trouve, Vincent Gesser, que la Ligue tunisienne des droits de l'homme vient de publier, c'était samedi, un rapport pour alerter sur les taux de surpopulation carcérale qui atteint jusqu'à 200% dans certains établissements. Si on devait d'abord faire un instantané des prisons tunisiennes, cette surpopulation, quelle prison concerne-t-elle en particulier et est-ce qu'il en a toujours été ainsi en Tunisie où la situation est exceptionnelle?
Alors, pour vous répondre sur le plan historique, oui, la Tunisie a toujours été caractérisée avant et après son indépendance par une situation de surpopulation carcérale avec des cellules collectives. Je crois que ça, c'est une des caractéristiques du système pénitentiaire tunisien, c'est qu'il y a très peu de cellules individuelles ou à petit nombre, mais ce sont des cellules collectives qui, en plus,
amalgame toutes sortes de catégories de détenus, des détenus à titre préventif, des détenus condamnés, des, entre guillemets, des innocents et des criminels. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des prisons qui mélangent les détenus. Même s'il existe des établissements à titre préventif, malgré tout, cet amalgame, ce mélange est, je dirais, le fait le plus courant et inscrit historiquement à l'époque de Bourguiba, sous le régime de Ben Ali, même dans les années de démocratie et encore davantage aujourd'hui. Et à cette dimension collective des cellules, il faut bien sûr rajouter des conditions extrêmement dures de détention, avec des problèmes d'hygiène, des problèmes aussi d'absence de couchage, puisque beaucoup de détenus ne disposent même pas de lit et doivent dormir à même le sol, des problèmes de nourriture. Il faut savoir que l'alimentation fournie par les prisons est très peu consommée par les détenus et que les détenus, généralement, survivent sur le plan alimentaire grâce à ce qu'on appelle les couffins des familles. Ceux qui n'ont pas de famille donc mangent dans des conditions tout à fait déplorables. Et puis aussi, une sous-assistance des détenus tunisiens sur le plan médical, puisqu'on compte en moyenne à peine un médecin par prison et parfois même moins. Et je ne vous parle même pas des psychologues, des psychiatres, etc. Donc on est vraiment dans une Tunisie qui a pourtant toujours défendu cette image de modernité sociétale et politique, et pourtant avec une réalité pénitentiaire qui relève quasiment de bagnes parfois moyenâgeux.
Des bagnes moyenâgeux, et d'ailleurs parmi les établissements pénitentiaires aujourd'hui qui sont ces établissements surpeuplés que dénonce la Ligue tunisienne des droits de l'homme, il y a de très vieilles prisons d'anciens camps militaires ou bagnes qui datent pour certains de la période coloniale, même si de nouvelles prisons ont été construites récemment, comme cette prison civile de la ville d'Oudna au sud de Tunis, inaugurée en 2020. Mais sinon, il y a beaucoup de prisons très très anciennes, voire pour certaines vétustes. Alors longtemps épargnées par la surpopulation figurait la prison des femmes de la Manouba, qui est aujourd'hui concerné toujours d'après cette association. Et vous parliez, Vincent Gesser, d'une surpopulation carcérale qui est caractéristique de la Tunisie, avec des vagues, entre guillemets, successives, et notamment depuis 2 ans, les prisons ont accueilli en Tunisie plus de 10 000 prisonniers. Il y a eu une accélération, on est passé de 23 à 33 000 détenus pour 18 000 places à peu près, donc beaucoup de prisonniers politiques parmi eux, on va y venir, à Temnafni. Comment ce rapport a été traité dans les médias tunisiens? Il a été publié samedi. Est-ce qu'il a fait réagir, et aussi le gouvernement?
Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu de réaction par rapport à ce rapport. En revanche, depuis, est-ce que c'est une coïncidence ou pas, mais depuis vendredi dernier, la Ligue des droits de l'homme, qui a donc publié ce rapport, est au cœur d'une crise. Officiellement interne, mais ça nous rappelle des choses, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de la Ligue des droits de l'homme qui ont perturbé une réunion qui se tenait vendredi, donc le jour vraiment, enfin la veille de la publication de ce rapport-là, pour dénoncer un manque de démocratie à l'intérieur, enfin des problématiques qui pourraient paraître internes, mais pour qui connaît un petit peu l'histoire de la Tunisie, ça rappelle ce que le régime de Ben Ali a toujours fait, c'est-à-dire pour mettre au pas des institutions qui sont un petit peu trop indépendantes, on passe par le noyautage. Donc des personnes de l'intérieur vont attaquer l'institution, et du coup ces personnes ont eu micro ouvert pour justement, dans les médias proches du régime qui sont aujourd'hui majoritaires, pour préciser qu'il y a un problème avec la Ligue des droits de l'homme, avec des accusations d'allégeance à l'étranger. Quand on dit étranger, on pense pays occidentaux, pour que les choses soient claires, et toute une série d'attaques qui sont pour la plupart infondées, mais qui, en revanche, affaiblissent la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui, justement, en publiant ce genre de rapport, arrive quand même à alerter sur la situation. Elle est dans son rôle, mais les autorités, déjà, depuis 2021, ont très très peu de communication en réalité. Le président de la République ne donne jamais d'interview, par exemple, jamais. Les membres du gouvernement vont très très rarement dans les médias, et puis certains d'entre eux dans des médias où ils vont avoir un discours assez balisé. Donc, ce qui fait, aujourd'hui, la réaction du régime se voit à travers, on va dire, ses représentants informels, comme par exemple ce qui s'est passé hier. On a eu par exemple sur une chaîne télévisée privée, mais totalement inféodée au pouvoir, juste le point de vue des opposants. On aurait pu, effectivement, dans une crise, c'est pas, il n'est pas absurde d'inviter les, d'entendre les deux sons de cloche. On a eu un discours sans aucune contradiction. Cela, et ça permet précisément, je n'oublie pas votre question, ça permet qu'on n'aborde pas ce problème-là, c'est-à-dire qu'on parle de d'organisation intérieure qui peut être importante, hein, qui peut s'entendre, mais on occulte le fond de l'affaire qui est effectivement la dégradation de, enfin, il n'y a pas que le côté carcéral, mais la dégradation des droits et des libertés depuis donc le 25 juillet 2021. Et
il faut dire que ce rapport est publié dans un contexte très conflictuel entre le président Kais Saied et le pouvoir judiciaire. L'arrestation de l'avocat et ancien juge Ahmed Souab fin avril en est l'une des dernières manifestations. On va y revenir. Alors le rapport néanmoins, Vincent Gesser, parle d'une nette amélioration par rapport à la situation qui prévalait avant la révolution 2011, donc sous Ben Ali. Comment étaient les prisons tunisiennes sous Ben Ali? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu, lors de la chute de celui qui avait dirigé la Tunisie pendant 24 ans, de prisons ouvertes, de détenus libérés, comme on l'a vu en Syrie après le départ de Bachar al-Assad?
Alors, d'abord, il faut souligner que sous Ben Ali, les prisons dépendaient essentiellement du ministère de l'Intérieur, même si elles étaient toujours rattachées au ministère de la Justice. D'ailleurs, le personnel pénitentiaire en Tunisie a longtemps appartenu à un corps à part entière au ministère de l'Intérieur. Bon, le système Ben Ali récupérait en partie l'héritage de Bourguiba, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a été dans la suite des prisons coloniales, des suites des camps coloniaux, et n'a pas eu vraiment de politique d'amélioration des conditions carcérales. Si ce n'est qu'il y a eu la construction de prisons modernes, mais très rapidement, ces prisons ont revêtu les mêmes caractéristiques des prisons anciennes, sous le vernis de modernité, surpopulation, sous-alimentation, absence de traitements médicaux ou psychosociologiques. En revanche, il faut quand même souligner qu'après la Révolution, il y a eu quand même ce qu'on pourrait appeler une forme de volontarisme politique de la part des gouvernements, du fait qu'eux-mêmes, pour la plupart, avaient connu la prison et avaient été pour en grande majorité des prisonniers politiques. Donc il y a eu une politique d'ouverture des prisons, de transparence, notamment avec des permis accordés aux ONG nationales et internationales pour pouvoir visiter les prisons, la signature d'un certain nombre de protocoles additionnels de conventions contre la torture par la Tunisie que le régime de Ben Ali avait auparavant refusé de signer, la création également d'une instance nationale de prévention contre la torture, qui a été quand même un acquis majeur de la période démocratie, et puis une série de réformes qui ne sont pas rentrées en application, visant à améliorer les conditions de détention, mais aussi les conditions de visite des familles des prisonniers. Volontarisme politique, mais à partir de 2013, en raison notamment du contexte de violence terroriste, on peut dire qu'il y a eu un coup d'arrêt total de ce volontarisme de réforme carcérale, et on est revenu à une situation malheureusement assez comparable à l'époque de Ben Ali.
Et les attentats de 2013 mais aussi de 2015 ont porté un coup d'arrêt à ces réformes, que ce soit l'attaque du musée du Bardo en mars 2015 qui a tué 19 personnes, l'attentat suicide du mois de novembre contre un bus de la garde présidentielle tunisienne, ces attentats revendiqués par l'État islamique, cette volonté réformiste qui néanmoins a surgi en 2011 et qui n'a pas duré très longtemps, mais elle était pour les prisons. Est-ce qu'elle s'est accompagnée à Temnafti d'une volonté de réformer la justice pour limiter, tout ça est bien sûr toujours lié, le recours à l'emprisonnement et garantir l'indépendance des magistrats en même temps?
Alors oui, à partir de 2011, il y avait... En fait, la Tunisie, dès l'ère de Ben Ali, a bénéficié notamment de fonds européens très importants, 3,4 milliards d'euros au total, sur trois tranches, d'un programme qui s'appelle le programme d'appui à la réforme de la justice. Donc ça a commencé déjà sous Ben Ali, avec la construction notamment de la prison de Monaghi dans la banlieue de Tunis, qui est aujourd'hui la principale prison, donc qui est dans un temps... au début a été présenté comme moderne et qui de fait l'était, mais bon, très vite, comme l'a très bien indiqué Vincent Gesser, donc il y a la vétusté qui arrive quand on est en surpopulation carcérale, en manque d'entretien, etc. Après 2011, oui, il y a eu une tentative de libéralisation de tout le régime, c'est-à-dire ça concernait la liberté d'expression, ça concernait les réformes politiques. On s'est engagé dans un processus constituant et avant même d'ailleurs la convocation de l'Assemblée constituante, donc fin 2011, toute l'année 2011, il y a eu tout un tas de réformes qui ont touché tout le côté libéral du système et la justice n'a pas fait exception.
Notamment, il faut rappeler qu'en Tunisie, le code pénal date de 1913, donc la période coloniale, et le code de procédure pénale, donc qui se focalise sur les droits et les devoirs des détenus, lui date de 1968, donc sous Bourguiba.
Et ce sont deux dates assez importantes, c'est-à-dire que le code pénal a été pensé sous une administration coloniale, officiellement au nom du Bey, mais en réalité ça a été un petit peu dicté par l'occupant français, pour tenir, on va dire, en respect la population autochtone. Donc, la philosophie derrière, quand vous lisez le code pénal, il est très porté sur vraiment la répression avec des peines assez importantes. Donc il y a eu évidemment des réformes entre 1913 et aujourd'hui, mais qui sont des réformes à la marge. Et l'idée, c'était qu'après l'élaboration de la Constitution de 2014, que toutes les lois qui sont plus basses, on va dire, dans l'ordre juridique, s'adaptent. Il y avait donc ce programme de réforme et notamment qui a touché le code de procédure pénale. Donc le code de procédure pénale ne date pas de la colonisation, mais il date aussi d'une période importante, 1968. C'est vraiment le moment où il y a eu les très grands procès politiques. À l'époque, c'était la gauche et l'extrême gauche, donc où il y a eu des peines très importantes. Et ce code de procédure pénale aussi a été pensé avec cette idée très répressif, du tout répressif, et a notamment donné un rôle très important, très prépondérant au juge d'instruction. Contrairement à un juge, on va dire, un juge de fond, si vous voulez, le juge d'instruction, c'est celui qui va pouvoir disposer de la liberté de quelqu'un qui est présumé innocent. Tant qu'on n'est pas condamné, on est présumé innocent. C'est-à-dire que tous les actes qu'il va prendre, qui peuvent parfaitement s'expliquer par le caractère de l'enquête, et donc qui peut avoir à prononcer des peines préventives de liberté, cela peut s'expliquer, mais ça donne un rôle très important et très très peu encadré en réalité de ce juge qui dispose littéralement de quelqu'un qui, rappelons-le, est encore réputé présumé innocent. Donc après 2015. Le ministère de la Justice, en 2015, après l'élaboration de la Constitution de 2014, le ministère de la Justice a lancé un grand chantier de réforme de ce code de procédure pénale. Il y a eu des travaux qui se sont tenus jusqu'en 2019, si je ne dis pas de
bêtises. Sous la houlette d'un grand avocat pénaliste,
Manou Bifalchichi, qui est vraiment le plus grand pénaliste tunisien, et avec des juges, des professeurs de droit, des juges dont Ahmed Souheb, dont vous avez parlé, ce juge qui a été arrêté maintenant depuis un mois. Et donc, cette commission a rendu sa copie au ministère de la Justice, et après, il y a eu des allers-retours avec le Parlement, et ça n'a jamais été voté. Après, il y a eu le coup d'État du 25 juillet 2021, et là, c'est passé aux oubliettes.
Vous avez fait un lapsus tout à l'heure à Temnafti en parlant de mesures privatives. Vous avez dit préventives, mais vous vous êtes rattrapé. Mais on entend bien aussi l'idée qu'il y a derrière, c'est que la détention préventive ou provisoire est aujourd'hui très largement utilisée par la justice tunisienne. Et d'ailleurs, les associations qu'on citait tout à l'heure, y compris la Ligue tunisienne des droits de l'homme, affirment que le pays fait un recours telle de la détention provisoire, donc l'incarcération de personnes qui n'ont pas été condamnées ou pas encore, que plus de 50% des détenus aujourd'hui sont dans ce cas. Vincent Gesser, est-ce qu'il s'agit là encore de quelque chose de nouveau en Tunisie ?
Non, ça a toujours été une caractéristique du système pénal tunisien, c'est-à-dire, on pourrait dire, l'abus au recours à la détention préventive. Et au-delà, donc vous dites 50%, mais par exemple pour les femmes, c'est même 75% des femmes aujourd'hui emprisonnées en Tunisie le sont à titre préventif. Mais faut-il préciser que cette détention préventive est très fortement liée aussi à des peines ou des soupçons, en tout cas de délits extrêmement mineurs. Donc ce n'est pas des peines, ce sont effectivement des soupçons de délits mineurs, notamment la question des stupéfiants, non pas pour trafic, mais pour simple consommation. Ça, il faut quand même y insister. Beaucoup de gens sont aujourd'hui incarcérés en Tunisie pour tout simplement, on va dire, une consommation, par exemple, d'une cigarette de hashish. Le sont aussi pour des délits financiers extrêmement mineurs, comme les chèques sans provision. Pendant très longtemps, et ça c'était vrai à l'époque de Bourguiba, de Ben Ali, et même après la Révolution, il y a en Tunisie un véritable traumatisme du chèque. Parce que les gens peuvent se retrouver en prison, tout simplement parce qu'ils ont émis un chèque qui n'était pas alimenté par le coin. Et puis il faut dire aussi, tous les délits liés à ce qu'on appelle les bonnes ou les mauvaises mœurs, hein, tout dépend du côté dont se place, et aujourd'hui les questions d'homosexualité, d'adultère, en gros de ce qui est jugé contraire à la morale publique. Donc la question de la détention préventive est aussi fortement liée à une gestion extrêmement identitaire et morale de la société tunisienne. Tous ceux qui ne sont pas conformes à un certain modèle de citoyen et de citoyenneté se retrouvent aujourd'hui en détention préventive. Pas tous ceux, mais une partie de ceux qui sont en détention préventive sont justement sont des gens incarcérés pour des choses liées aux mœurs ou aux mauvais comportements par rapport à la morale dominante.
Ou aux fausses informations. Alors, il s'agit d'une manifestation à Tunis le 25 avril dernier. On entend ici le syndicat national des journalistes tunisiens, enfin l'un de ses porte-parole, dire qu'il restera une plateforme pour les libertés, pour tous les opprimés sans exception, sans parti pris, et d'exiger la libération de plusieurs personnes ou confrères, dont Maître Ahmed Souab, qui est donc cet avocat, mais il a été juge pendant longtemps, il est aujourd'hui avocat, qui a été arrêté fin avril. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans quelle prison il est, Atem Nafti, et surtout nous rappeler pourquoi il a été arrêté?
Oui, il est à la prison de Mornaguer, donc la principale prison de Tunis. Et il a été arrêté parce que il était, officiellement, il a été arrêté pour des propos sur lesquels je reviendrai. Mais c'est contrairement aux juges en Tunisie, mais également en France, les magistrats s'expriment très peu. Or, Ahmed Souab était quelqu'un de très engagé, que ce soit d'ailleurs pendant la décennie post-révolutionnaire ou que ce soit après. Et c'était ce que vous appelez dans les médias un bon client. On aimait bien l'inviter. Il était assez drôle.
Moi, je dis jamais ça, personnellement.
D'accord. Alors, vos confrères parlent de bon client.
Il avait de la verve.
Complètement. Il a de la verve. C'est quelqu'un, d'ailleurs, par ailleurs, qui m'a beaucoup aidé, notamment sur mes travaux sur la justice, puisqu'il a vraiment une manière très pédagogique d'expliquer les choses. Et donc, il arrivait sur des plateaux, en utilisant des mots assez simples, à expliquer la complexité de la situation aujourd'hui, les atteintes aux droits et aux libertés. Et donc, il était depuis un bon moment dans le collimateur du régime. Il se trouve que c'était aussi un avocat dans cette affaire qui a fait grand bruit, qui est celle du complot contre la sûreté de l'État, dans laquelle peut-être qu'on y reviendra.
Mais allez-y, expliquez-nous en quelques mots de quoi il s'agit.
C'est une arrestation c'est une série d'arrestations, un coup de filet qui a commencé en 2013, qui a touché un certain nombre d'opposants, mais aussi de citoyens lambda.
Après des législatives où le taux d'abstention avait été très fort.
Tout à fait. C'était au moment où il y a eu un véritable désaveu du régime. Parce que aux élections législatives de 2022-2023, il n'y a eu que 11%. C'est un record mondial, en l'occurrence d'abstention. 11% de participation, donc près de 88% d'abstention. Et donc le régime a essayé, est sorti avec cette idée de complot contre la sûreté de l'État sur des déclarations anonymes. Et on a arrêté un certain nombre de personnes, d'ailleurs certaines d'entre elles totalement identifiées comme opposantes, c'est-à-dire qui se cachaient absolument pas. Votre émission a commencé par le témoignage de Madame Shaima Aris, qui s'est fait arrêter dans le cadre de cette affaire, qui a parlé de son expérience carcérale. Et donc, on a arrêté une série de personnes, et du coup, on n'a pas du tout respecté un certain nombre de lois, notamment la durée de la préventive qui est plafonnée à 14 mois. mois.
9 mois pour les délits, 14 pour les crimes, et là ils sont restés beaucoup plus longtemps en préventive.
Ils sont toujours en prison, et ils ont été jugés après 2 ans de préventive, donc largement au-delà de ces 14 mois de préventive. Et on ne va pas énumérer toutes les atteintes, mais le pire, c'est que le jour même du procès, il y a eu 3 audiences, et à la 3e audience, les juges ont persisté à laisser les prisonniers, à ne pas les extraire de leur prison et à les faire témoigner à distance. Les avocats s'y sont opposés, et donc il y a eu un passage en force, et on est passé directement au verdict. Ça n'est jamais arrivé. De grands procès, on en a déjà connu, mais des procès où on passe directement au verdict, y compris d'ailleurs sans écouter les personnes qui étaient présentes. Madame Chaïmaris, qui est co-accusée dans cette affaire, était dans la salle d'audience, elle n'a pas été auditionnée, et elle a écopé de 18 ans de prison. Elle n'est pas en prison actuellement, mais en tout cas, elle a écopé de 18 ans de prison, et vous avez rappelé tout à l'heure les peines encourues. Donc Ahmed Souheb, qui était avocat dans cette affaire, a tenu avec ses confrères une conférence de presse pour justement souligner toutes les atteintes, et il a parlé notamment de la pression faite à la justice, et il a utilisé cette expression, les juges ont le couteau sous la gorge, et il a mimé le geste.
Du couteau sous la gorge.
Ça a été interprété beaucoup de mauvaise foi, il faut le dire, comme une menace à ces juges, venant d'un juge, donc il s'est fait arrêter sous le motif de terrorisme. Donc aujourd'hui, il est détenu, on parlera peut-être aussi de ça, c'est-à-dire que les prisonniers marqués comme terroristes ont un régime carcéral qui est différent des autres prisonniers. Et donc aujourd'hui, il est en prison depuis un mois, nous sommes le 20 mai, il a été arrêté le 21 avril, et donc ça fait... Et les juges d'instruction ont refusé de le libérer. Il n'est pas encore condamné, mais en tout cas, il y a des charges très très graves qui pèsent contre lui pour, encore une fois, une expression imagée que tout le monde explique.
Une épée de Damoclès ou un couteau sous la gorge.
Et c'était assez clair dans le contexte, mais encore une fois, ce n'était qu'un prétexte.
Donc, cette arrestation a déclenché de grandes manifestations à Tunis, qui est quand même assez rare depuis que Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs. La semaine dernière aussi, c'est devant le tribunal de première instance de Tunis. Cette fois, c'était principalement des avocats qui manifestaient contre les arrestations de leurs confrères, enfin consœurs en l'occurrence Sonia Darmani et Merdi Sagrouba, les violences et les coups qu'a reçu Mehdi Sagrouba également lors de son arrestation sont dénoncés. Des prisonniers considérés aujourd'hui comme politiques et qui subissent eux aussi, même s'ils ne sont pas accusés directement de terrorisme, mais des conditions carcérales très particulières, comme l'explique ce membre d'Human Rights Watch.
Il y a au moins 8 prisonniers politiques qui sont dans des cellules avec une lumière allumée, mais 24 heures sur 24, une lumière forte qui les empêche de dormir, sans parler des caméras de vidéosurveillance qui sont dans leurs cellules et qui les filment 24 heures sur 24. Enfin, imaginez, vous êtes membre du Parlement ou ancien ministre et vous vous retrouvez dans des conditions pareilles uniquement parce que vous êtes en opposition au président. Donc ces gens-là sont poursuivis pour des motifs comme terrorisme parfois ou atteinte à la sécurité de l'État sans aucune preuve tangible. C'est clairement un basculement de la démocratie à l'autoritarisme. Ça ne fait pas lever un sourcil aux diplomaties occidentales, et bien ça devrait.
Un reportage, un témoignage recueilli par France Info il y a quelques semaines. Alors, une petite précision concernant Mehdi Sagrouba, que j'ai cité juste avant. Atem Nafti me rappelait qu'il a été libéré depuis. En tout cas, il y a des discussions qui sont en cours, puisque lui accuse, enfin, il reproche vraiment des actes de torture par rapport à la fois ceux qui l'ont arrêté, qui l'ont roué de coups, mais aussi quand il était en prison. Donc, cette affaire-là, pour l'instant, est entre parenthèses. En tout cas, que ce soit lui ou d'autres, que ce soit des avocats, des journalistes, des militants d'associations des droits de l'homme, Vincent Gesser, beaucoup aujourd'hui tombent sous le coup d'un décret qui a été promulgué en 2022, ce décret 54 contre les fausses informations. Donc c'est un texte qui punit jusqu'à 5 ans de prison quiconque utilise les réseaux d'information et de communication pour rédiger, produire ou diffuser de fausses nouvelles dans le but de porter atteinte aux droits d'autrui ou de porter préjudice à la sécurité publique. Combien de personnes aujourd'hui sont poursuivies à ce titre-là ou sont déjà en prison sur la base de ce décret?
Alors, sur le nombre, je ne sais pas exactement le nombre, mais en tout cas, c'est peut-être Atem le précisera, mais je pense que ça doit toucher près d'une...
Oui, alors, effectivement, j'ai eu du mal... Enfin, dans mon livre, j'essayais de demander, notamment à la Ligue des droits de l'homme. En fait, on n'arrive pas à avoir de chiffrage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche... des citoyens lambda, ça touche aussi le citoyen qui se plaint de ce qu'a fait le responsable dans son. Donc on ne sait absolument pas.
On ne sait pas combien.
Mais on parle de quelques milliers.
Oui. Vincent Gesser.
Voilà. Donc quelques milliers et notamment les simples utilisateurs de réseaux sociaux. Un simple post sur Facebook, effectivement, peut aujourd'hui vous faire inculper de diffusion de fausses nouvelles. Ce qu'il faut bien dire, et Atem Nafti l'a très bien montré dans ses différents ouvrages, c'est qu'aujourd'hui, le complotisme, c'est pas une variable parmi d'autres du fonctionnement de ce régime. C'est le carburant de fonctionnement. C'est un régime profondément conspirationniste, complotiste, qui utilise justement cet argument du complot contre la sûreté de l'État pour s'en prendre aux opposants, aux dissidents, mais aussi à des citoyens ordinaires. Et une dimension qu'il faut souligner, qui est aussi une évolution, je dirais, significative par rapport au régime de Ben Ali, qui était, on pourrait dire, un autoritarisme policier classique, c'est qu'on est de plus en plus en présence d'un autoritarisme identitaire. On ne combat pas seulement les gens pour ce qu'ils disent ou pour leur acte d'opposition, mais pour ce qu'ils sont, pour leur identité, le fait d'être ne pas conforme à un certain modèle de tunisianité. Et nous sommes dans un régime qui est profondément identitaire, qui a une définition puriste de ce que doit être le bon ou le mauvais citoyen tunisien. Et aujourd'hui, beaucoup de Tunisiennes et de Tunisiens se trouvent inquiétés par la police, par la justice, et parfois même incarcérés parce qu'ils sont du mauvais côté de ce que doit être la bonne identité tunisienne selon Kais Saied. Et cette dimension identitaire de l'autoritarisme tunisien, du régime tunisien, est une évolution significative, voire même une rupture par rapport à d'autres formes d'autoritarisme qu'a connu la Tunisie, notamment à l'époque de Ben Ali et de Bourguiba.
Donc promouvoir une nouvelle Tunisie, c'est le discours de Kais Saied. Atem Nafti, je vous prie de m'excuser tout à l'heure, je vous ai demandé d'aller vite, c'est parce que Vincent Gesser était en train de développer, mais surtout que je voulais vous faire aussi raconter ce que vous m'avez très vite dit avant que l'émission ne commence, c'est que vous connaissez aussi beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui sont accusés et parfois en détention provisoire accusés de complot pour un simple article partagé sur WhatsApp, par exemple.
Tout à fait. Alors, je vais prendre deux cas. Un cas que Vincent Gesser connaît très bien, parce que c'est un étudiant qui dépend de son institution, qui a été arrêté pendant quelques mois, Victor Dupont, qui a été donc accusé notamment d'espionnage. Il a été libéré entre-temps, mais ça a été particulièrement dur. Il y a un autre cas d'un chercheur qui aujourd'hui est en France, mais qui est condamné dans le cadre de ce procès dont je vous ai parlé de complot contre la sûreté de l'État. C'est Hamza Bennebsa, l'un des meilleurs chercheurs tunisiens, qui heureusement n'est pas en prison, mais qui a été condamné à 33 ans de prison. Et ce dont on le soupçonne, c'est d'avoir échangé des articles d'analyse avec Khayem Tolki, qui est l'un des principaux donc accusés dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État. Khayem Tolki dirigeait un think tank. Donc, il est tout à fait normal que quand on dirige un think tank, on partage des analyses de recherche. Et donc, Hamza Al-Medeb, en arrêtant Khayem, ils ont trouvé des échanges de messages sur WhatsApp sur des analyses sur ce qui se passe en Tunisie, notamment sur la question de des pénuries alimentaires et de la question économique plus généralement. Et dans le procès qui leur a été fait, on les a soupçonnés donc de provoquer les causes qu'ils analysaient.
Ils organisent la pénurie alimentaire parce qu'ils partagent des articles sur la question.
Il faudrait peut-être revenir sur les chefs d'accusation et même sur c'est-à-dire il s'est trouvé un juge d'instruction pour signer un rapport de fin d'instruction, une ordonnance de renvoi, comme on dit, dans laquelle il est question de franc-maçonnerie, des choses quand même parfaitement inquiétantes, qui prêteraient à sourire si on les trouvait sur des forums conspirationnistes. Là, il s'est trouvé un juge d'instruction et derrière une chambre d'accusation, donc la cour d'appel en matière d'instruction, pour valider ce genre de rapport sur lesquels il y a quasiment aucune trace, mais pour autant, il y a eu des peines totalement disproportionné. Et voilà comment on accuse les gens, c'est-à-dire s'échanger un message sur WhatsApp. Ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire on arrête les gens, on confisque leur téléphone, et à partir de leur correspondance, on va monter un dossier. Ce qui est une vision assez quand même problématique de l'enquête, même dans sa philosophie même.
Comme vous le dites, il s'est trouvé un juge d'instruction pour ce qui pose la question, Vincent Gesser, des liens qu'entretiennent aujourd'hui.
Je vous permets juste de préciser que le juge d'instruction en question, aujourd'hui, est en fuite en dehors du pays. Il fait l'objet d'un mandat d'amener.
Ah d'accord, donc ce n'est pas nécessairement un proche de Kaïs Saïd.
Et le policier qui a instruit cette affaire est aujourd'hui en prison en Tunisie pour des faits de corruption, juste pour donner aussi la solidité de ce dossier.
Et quelle est aujourd'hui, et depuis en fait longtemps, Vincent Gesser, la vision de Kaïs Saïd de ce que doit être le pouvoir judiciaire dans l'équilibre des pouvoirs? Kaïs Saïd, il est depuis longtemps, même si on le connaît, nous, ici, depuis 2019, parce qu'il est président de la Tunisie, mais il a été longtemps professeur de droit constitutionnel. Quand il a fait campagne, c'était aussi sur la question de la justice. On voyait cette balance judiciaire qui était le symbole de sa campagne, et Atem Nafti en parle dans son livre. Il a cette balance sur son bureau au palais de Carthage, le palais présidentiel. Quelle est aujourd'hui la vision qu'il a du pouvoir judiciaire qu'il dit vouloir assainir?
Alors, d'abord, effectivement, vous avez raison de rappeler, donc c'était un assistant en droit qui ne faisait pas trop parler de lui. D'ailleurs, moi, pour avoir vécu en Tunisie, il ne faisait pas partie des grandes références en termes de droit, et même de droit public ou de droit constitutionnel. Il est devenu un peu plus connu après la Révolution parce qu'il faisait des expertises auprès des médias de ce qu'étaient les réformes constitutionnelles en cours. En tout cas, personne ne pouvait prévoir que cet homme, qui était pourtant baigné de droit par sa formation et par sa profession, puisse justement se retourner contre le droit qu'il avait enseigné pendant plusieurs décennies à ses propres étudiants. Mais en revanche, il y a une logique. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui agit sans logique. Je pense qu'il a une logique. Il considère qu'il a une mission. C'est quelqu'un qui se sent habité par une mission, celle de régénérer la Tunisie, donc la régénérer politiquement, la régénérer sur le plan identitaire. Et pour lui, les magistrats doivent participer, contribuer activement à cette régénération. Il ne fait pas simplement il ne soumet pas simplement la justice, il ne supprime pas simplement le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'il aurait, je dirais, des tendances dictatoriales, mais parce qu'il a un projet sociétal, il a un projet idéologique. Et donc, pour lui, les juges, comme tous les membres de la société tunisienne, les hauts fonctionnaires, les simples citoyens, les journalistes, doivent se mettre au service de ce projet de régénération.
Ah, on vous a perdu, Vincent Gesser, mais on a bien compris qu'il s'agissait de ce projet de régénération et de nouvelle Tunisie dont vous parliez tout à l'heure. Il se trouve à Atem Nafti, oui. En 2020. Ah pardon, mais on vous avait perdu, mais on a entendu le sens de votre intervention, et je vous en remercie, Atem Nafti, puisque Vincent Gesser parlait du Conseil supérieur de la magistrature. Quand en 2021, Kaïs Saïd a décidé de geler le Parlement, d'évincer le Premier ministre, ce à quoi on a moins prêté attention à l'époque, c'est qu'il en a aussi profité pour reprendre en main le parquet et engager un bras de fer avec ce Conseil supérieur de la magistrature. En quelques mots, que s'est-il passé?
Absolument. Donc le 25 juillet, il annonce les principales mesures qu'on a retenues en relation directement avec le pouvoir. Mais il dit aussi, je vais présider le parquet. Il y avait un Conseil supérieur de la magistrature obtenu de haute lutte, après un Conseil supérieur de la magistrature indépendant, dont une partie des membres est élue par les pairs. Et donc finalement, il y a un bras de fer qui s'installe entre les deux. Il finit par dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature, en nommer un autre. Et ça, comme ça lui suffit pas, il se donne aussi quelques mois après, donc en juin 2022, il le dissout en février 2022. En juin 2022, il se donne le droit de révoquer n'importe quel juge directement sur la base d'un simple rapport de police. Dans la foulée, il limoge 57 magistrats. Il y en a 49 qui sont réintégrés par la justice administrative, mais on refuse d'exécuter cela.
Donc, on change les serrures de leur bureau pour les 47 qui sont
absolument
réintégrés.
Ils vont dans leur bureau, ils trouvent que les serrures ont été changées. Et donc derrière, on explique que finalement, oui, quand le pouvoir décide d'évincer un juge, il est évincé. Ensuite vient le, parce que le sens des mots est important, vient la constitution de 2022, donc portée par Kais Saied, qui ne parle plus de pouvoir judiciaire, mais de fonction judiciaire. Et pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le juge est vu comme précisément un fonctionnaire. Mais, on va encore plus loin, et même ce Conseil supérieur de la magistrature, qui est nommé par Kais Saied, qui est censé lui être plus ou moins fidèle, il finit par être débranché, en tout cas dans sa partie judiciaire, parce que il y a des personnes qui sont nommées ex-qualité, et ce qu'on fait, on va jouer sur les nominations. Par exemple, je ne mets pas de procureur près de la Cour de cassation, qui est membre de droit, et donc on arrive à une absence de quorum, et du coup, aujourd'hui, ils ne sont plus ce Conseil supérieur de la magistrature, qui est quand même censé préserver l'indépendance de la justice, il est remplacé directement. Aujourd'hui, les juges sont nommés directement par la chancellerie, par la ministre de la justice, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune indépendance de la justice de manière concrète.
Et la dissolution de cette instance a été assez spectaculaire. En pleine nuit, en février 2022, il est entouré, le président des hauts gradés de la police, il annonce la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature. Alors lui justifie cette dissolution en disant que le CSM a été une entrave dans la recherche de la vérité sur l'assassinat de Chokri Belaïd, donc un homme politique et avocat assassiné en 2013. Vous dites à Atem Nafti dans votre livre que cette accusation est nulle et non avenue puisque le CSM n'a absolument pas à s'occuper de ce genre d'enquête.
Il ne juge pas. Il ne juge pas les affaires.
On peut aussi rappeler en quelques mots qu'il y avait une petite fâcherie entre le président et le CSM qui avait muté son épouse, elle-même juge, Ishraf Chebil, à plus de 200 km de Tunis, dans la ville de Sfax. Donc lui, il l'avait pris comme un affront. Mais Vincent Gesser, au-delà de ces presque anecdotes, ou ces raisons un peu futiles de se fâcher, ou un peu presque enfantines, vous dites que c'est une véritable vision du monde.
Oui. Moi, je reste persuadé que ce que dit Atem quand il dit que il réduit finalement les magistrats à un simple exercice de fonctionnaire, c'est même pas fonctionnaire au service de la société et même d'un système, c'est le fonctionnaire au service d'un projet sociétal et idéologique. Et avec un élément conspirationniste, complotiste, toute personne qui se met pas au service est un agent qui travaille avec l'étranger, parce que ça, je crois que le complotisme et le conspirationnisme, c'est vraiment une marque de fabrique de ce régime. Mais je voudrais dire une chose importante. Cela ne renvoie pas à la compétence des juges. En Tunisie, vous savez, c'est un pays d'enseignement supérieur. C'est un pays de grande qualité d'enseignement supérieur. Il y a l'équivalent de l'ENA qui forment des gens de très grande qualité. Il y a une école de la magistrature, l'Institut supérieur de la magistrature, qui forme de magistrats de grande qualité. Mais alors on peut se demander, mais pourquoi ces magistrats de grande qualité ne réagissent pas à ce qui se passe aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a une dimension qui est quand même centrale, c'est la peur, le retour de la peur. Il y a beaucoup aujourd'hui de hauts fonctionnaires, de magistrats, de journalistes et même d'avocats qui ont peur. C'est-à-dire qu'il y a un retour de la peur. On pensait, et c'est vrai que j'ai fait partie de ces analystes, de ces spécialistes, qui après 2011, les Tunisiens n'ont plus peur d'affronter le régime, n'ont plus peur d'émettre des critiques à l'égard de l'exécutif. Mais quelque part, il faut quand même faire un petit mea culpa, on s'est un peu trompé. Il y a un retour aujourd'hui de la peur en Tunisie, et la peur est redevenue un registre, un répertoire, un mode de gouvernement qui atteint toutes les catégories de la population, y compris les juges. Ces juges ne sont pas incompétents. Ces juges ne sont pas forcément des gens féroces au service du régime. Ces juges ne sont pas forcément des idéologues. Ils ont tout simplement peur. Et parce qu'ils ont peur, ils s'exécutent.
La peur de l'arbitraire aussi, c'est la fonction première d'ailleurs de l'arbitraire que de créer la peur. En Tunisie, on a vu, alors c'est une tendance mondiale, mais en Tunisie particulièrement, la hausse de troubles de santé mentale ces derniers temps, y compris dans les prisons, ces prisons surpeuplées. On en parle juste après ce rappeur tunisien Saïf Amri et justement sa chanson Passion est extraite de son album Trips in Rehab. Il évoque ses problèmes d'addiction et de santé mentale.
شوارع مليانة سكات تواريخ كلها تنسات فارغ ولا الانسان عمره عايش هارب منه الاحساس حتى ملو المشات دار الدورة طلعش عنده ما شاف دنيا تغورة وفسد بعد العشرة طلعوا يحبوا الاحساب صبرنا ياما نتفكر ايامك صغروا لمات دارت وكبروا الولاد يا 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 صبرنا ياما نتفكر
نفكر ايامات صغره لمات نارتو كبروا الولاد.
Le rappeur tunisien Saïf Amri, plus connu sous son pseudo Alpha, et c'est un extrait donc de cet album où il raconte ses problèmes de santé mentale. Je me noie dans le passé, dans nos histoires et nos fautes. J'ai peur de demain, de ce que l'avenir me réserve. Et dans les prisons en particulier, la Ligue tunisienne des droits de l'homme alerte sur le manque de prise en charge de la santé mentale.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La santé mentale des prisonniers, cette question est abordée en filigrane du rapport de la Ligue tunisienne des droits de l'homme paru ce week-end et qui évalue le taux de surpopulation carcérale à 150%, jusqu'à 200% dans certaines prisons. Nous sommes en direct depuis Tunis avec Riab Boukaïata. Bonjour.
Bonjour.
Boukaïata, pardon, excusez-moi, j'ai mangé votre nom. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Nawet, c'est un média tunisien spécialiste des questions relatives aux droits et libertés. D'abord, pour les détenus qui ont des problèmes de santé mentale avant leur condamnation, qu'est-ce qui est prévu par la loi ou par l'administration pénitentiaire ?
En fait, comme vous venez de dire, on ne peut pas dissocier cette question de la santé mentale de l'état des prisons ici actuellement en Tunisie, la surpopulation carcérale, le problème, la difficulté d'accéder aux droits les plus élémentaires, c'est-à-dire le droit à la santé, le droit à la nourriture, etc. Donc, il y a un contexte déjà très violent. Pour tout le monde, et il est encore plus pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Donc, l'hébergement des personnes atteintes de troubles mentaux et dépourvues donc de capacités juridiques, notamment et capacités dans les prisons tunisiennes, constitue une pratique contraire à la loi nationale, mais aussi nationale, qui interdit l'incarcération des personnes souffrant de troubles mentaux dans des établissements pénitentiaires. Mais malgré la clarté juridique, la clarté du cadre juridique tunisien, qui prévoit donc que les malades mentaux doivent être placés dans des hôpitaux psychiatriques en vertu de décisions judiciaires, car donc ils ne peuvent pas être tenus responsables sur le plan pénal. La réalité en Tunisie révèle une toute autre pratique. Donc ces personnes-là restent
en prison. Et quelles sont les solutions ?
La Ligue l'a documenté.
Oui, la Ligue tunisienne l'a documenté avec quelques éléments précis dans son dernier rapport.
Oui, donc en fait, en se basant aussi sur d'autres rapports de ISF, donc l'Avocat sans frontières, de l'Instance nationale de lutte contre la torture, il s'agit de dizaines de cas, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc, il y a aussi la Ligue. Appelle à respecter la loi, car ces personnes-là en fait sont incarcérées dans des conditions incompatibles avec leur état de santé psychique et mentale, ce qui constitue une violation flagrante du droit à la santé et au traitement, ainsi qu'un dépassement grave des garanties juridiques et procédurales qui leur sont normalement assurés.
Oui. D'autant que s'ils demandent à consulter un psychiatre, un psychologue, les soignants ne sont pas assez nombreux. En attendant, on leur donne des psychotropes. Les surveillants de prison distribuent des psychotropes. Mais au niveau national, la production de certaines molécules et de leurs génériques pour traiter ces pathologies liées à l'anxiété ou la dépression ne suffit pas à répondre à la demande, y compris pour les personnes qui ne sont pas en prison. La demande a énormément augmenté dans toute la Tunisie, d'après l'association tunisienne de prévention en santé mentale chez les jeunes. Peut-être en mot, Riab Boukaïata, pour les associations tunisiennes, dont l'association Damj pour la justice et l'égalité, ont fait état récemment la multiplication des arrestations et de condamnations visant spécifiquement les personnes LGBT. Est-ce que le rapport de la Ligue tunisienne des droits de l'homme évoque leur cas et la question de savoir comment ces personnes vivent aujourd'hui en prison ?
En fait, la Ligue, elle alerte sur trois catégories de personnes en particulier. Il y a justement, c'est les personnes souffrant de troubles mentaux. Il faut différencier justement les personnes qui ont déjà des troubles mentaux bien avant leur incarcération et ceux qui vont avoir des difficultés, des problèmes de santé mentale durant leur incarcération. Et là, il faut différencier les deux catégories. Ce sont des gens qui doivent être placés dans des hôpitaux psychiatriques et faute de place, on les laisse croupir dans les prisons, ce qui constitue une menace pour eux et pour les autres prisonniers et même pour les agents. Il y a d'autres qui souffrent de ces problèmes lors de leur incarcération avec qu'on enregistre un taux de tentative de suicide, d'automutilation. C'est une réalité connue en Tunisie avec, comme vous venez de le dire, une prescription exagérée de psychotropes. Il y a aussi deux autres catégories, qui sont mentionnées. Il y a les personnes queer qui sont dans les prisons tunisiennes, la prison reste une micro-société qui reflète donc ce qui se passe
hors des murs,
ailleurs. Donc on voit les mêmes problèmes, voire plus, parce que c'est dans des espaces
confinés,
exigus, qui confinés, des problèmes de discrimination, de violence, la prise en charge n'est pas adaptée concernant que ce soit la prise en charge au niveau de la santé mentale ou aussi physique, hormonale, sachant qu'ils ont des besoins particuliers qui n'en sont pas pris en compte. Ça, c'est l'un des aspects aussi. Il y a aussi une autre catégorie.
En quelques mots, s'il vous plaît, pardon, on arrive à la fin de l'émission.
Juste les migrants, les autres pas. Une autre catégorie qui sont les migrants. Il y a aussi, parce qu'il y a une augmentation des arrestations des migrants dans le cadre de la politique migratoire de Kais Saied. Ces migrants-là ont des difficultés aussi au sein des prisons tunisiennes. Comme pour les queers, c'est des discriminations, c'est des violences. Et voilà.
Merci beaucoup,
Louise. Essayez de faire vite.
Non, mais je vous en prie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et sur la politique migratoire, justement, de Kais Saied, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'une des avocates dont on parlait tout à l'heure est en prison en ce moment. Elle s'est permise d'ironiser sur le fait que, comme le dit Kais Saied, tous les Africains d'Afrique subsaharienne rêveraient de vivre en Tunisie. Elle s'en est moquée à l'antenne, je crois, sur une radio. Et elle est en prison aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, Riab Boukayatia, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste pour ce média tunisien Nawet. Un tout petit mot en quelques secondes, les peines alternatives, ça existe ou pas, Atem Nafti?
Dans le droit, oui, ça existe. Oui, ça existe depuis même avant la Révolution, notamment le bracelet électronique. Dans la pratique, on a vraiment, c'est pas tant un problème de législation, c'est vraiment un problème d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on est dans le tout répressif et on ne sait présenter que la prison pour précisément... d'ailleurs, en Tunisie, on parle de l'administration carcérale s'appelle prison et réhabilitation. On parle jamais de la réhabilitation, on parle que de la prison.
Merci beaucoup, Atem Nafti. Je renvoie les auditeurs vers votre livre, Notre ami Kais Saied, essai sur la démocrature tunisienne, paru l'année dernière aux éditions Rive-Neuve. Et merci beaucoup à Vincent Gesser, chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, l'IREMAM, AMU d'Aix-en-Provence. Peut-être juste citer votre livre Tunisie, une démocratisation au-dessus de tout soupçon, avec un point d'interrogation qui avait paru en 2019 et qui déjà parlait de la persistance des réflexes autoritaires. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous emmenez, Catherine, en Afrique du Sud ce matin, toujours confrontée à l'exploitation minière illégale.
Près de 2000 personnes ont été arrêtées en avril dans le cadre de l'opération Vala Umgodi, titre le quotidien sud-africain The Citizen. Vala Umgodi, le nom de cette opération nationale, veut dire « sceller les trous en Zoulou ». Lancée fin 2023, promettant d'adopter une position ferme à l'égard des bandes criminelles, rappellent The Citizen et APA News, cette opération s'est intensifiée depuis le siège policier de la mine d'or de Stilfontein, dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud. Je vous en avais parlé ici même, des orpailleurs clandestins avaient avaient été piégés sous terre depuis le mois d'août, privés de nourriture et d'eau sur décision des autorités sud-africaines. Avec finalement un sauvetage mi-janvier, 87 corps ont été retrouvés. Des centaines d'autres mineurs ont été sauvés, note le site d'information sud-africain MoneyWeb. Mais nombre d'entre eux ont survécu en se tournant vers le cannibalisme ou en mangeant des cafards pour supporter les conditions inhumaines sous terre. Finalement, ramenés à la surface en janvier dernier, on aurait dit des morts vivants, écrit la NPR. Des hommes et des jeunes mineurs clandestins, squelettiques, la peau et les cheveux recouverts de terre. Certains peinaient à marcher, d'autres s'effondraient à la lumière du jour. 4 mois plus tard, aujourd'hui, c'est une autre vérité terrifiante qui surgit grâce à une enquête de la BBC. Parmi les mineurs illégaux à Stilfontein et dans d'autres puits d'ailleurs désaffectés d'Afrique du Sud, se trouvent des jeunes de moins de 18 ans victimes de violences sexuelles. C'est ce qu'explique à la BBC Gugu Gaba, à la tête de l'ONG Save the Children en Afrique du Sud. Elle a aidé à traduire certains interrogatoires entre la police, les sauveteurs et les mineurs adolescents de Stilfontein. Des jeunes traumatisés, détruits mentalement parce qu'ils avaient peur de ne plus pouvoir sortir de la mine, sous terre. Les adultes commençaient à prendre soin d'eux, à dire qu'ils les aimaient, mais ils les ont ensuite forcés à se soumettre à des actes sexuels. Et la directrice de l'ONG Save the Children précise que les bandes criminelles qui exploitent clandestinement des mines d'or ou de diamants en Afrique du Sud recrutent même des enfants dans le cadre d'un trafic sexuel, ajoute la BBC. C'est ce que confie également Jonathan, un ancien mineur qui a travaillé près de Johannesburg.
Sometimes I used to see kids, 15, 17. They used to take advantage of them sometimes. Sexual abuse.
J'avais l'habitude de voir ces enfants dans la mine, des adolescents de 15-17 ans. Des mineurs adultes leur promettaient de leur donner une partie de l'or qu'ils avaient trouvé en échange de relations sexuelles, raconte Jonathan à la BBC, et d'insister, si un gamin a désespérément besoin d'argent, il prendra ce risque. La BBC ajoute que des enfants viennent de familles pauvres du Mozambique, par exemple, à qui l'on a promis de l'argent pour travailler. D'autres sont même arrachés, enlevés à leur famille. Une vingtaine d'adolescents ont été arrêtés et renvoyés vers leur pays d'origine, le Mozambique, indique la chaîne télévisée sud-africaine SABC News ainsi que l'agence de presse chinoise Xinhua. Quant au site d'investigation sud-africain Daily Maverick et le site d'information financière MoneyWeb, ils dénoncent l'hypocrisie, la duplicité de l'Afrique du Sud, capable de perpétrer un massacre à Stilfontein en affamant des mineurs clandestins sur fond de xénophobie, ce qui contraste avec la récente posture morale de l'Afrique du Sud sur la scène mondiale, où elle a renvoyé Israël devant la Cour pénale internationale pour génocide présumé, rappelle MoneyWeb. Avec environ 6000 mines désaffectées potentiellement disponibles pour l'exploration, l'exploitation illégale en Afrique du Sud, rappelle la BBC, il est peu probable que cette activité cesse de sitôt, laissant des milliers d'enfants vulnérables en danger. Qui plus est, des enfants venus d'autres pays, alerte l'ONG Save the Children, ainsi que la chaîne télévisée SABC News. De jeunes mozambicains, zimbabwéens se retrouvent exploités dans des mines, mais aussi dans des usines ou comme domestiques en Afrique du Sud.
Aux États-Unis, la Cour suprême autorise Donald Trump à révoquer le statut de 350 000 immigrés du Venezuela.
Et c'est une victoire juridique importante pour l'administration Trump, souligne The Hill, car des juges de district de tout le pays ont bloqué d'autres décrets du président républicain. La Cour suprême autorise donc la révocation d'une protection temporaire accordée sur l'administration Biden. Ce statut interdisait jusque-là d'expulser ces immigrés, les États-Unis considérant le Venezuela de Nicolas Maduro comme un régime autoritaire. Répression politique sans précédent, confirme Human Rights Watch, depuis la présidentielle contestée de juillet dernier, suivie par des manifestations et une répression sanglante qui a fait 28 morts, plus de 2000 personnes arrêtées, sans compter la tourmente économique et les pénuries alimentaires, ajoute The Hill. Des personnes expulsées des États-Unis risquent d'être incarcérées, torturées, voire tuées par le même régime qu'elles ont fui, alerte le Miami Herald. Des médecins, des journalistes, des policiers et même d'anciens militaires qui ont osé s'opposer au régime Maduro. Ce n'est pas seulement une question de désaccord politique, c'est une question de vie ou de mort, souligne le président d'une organisation d'exilés vénézuéliens basée à Miami, citée justement par le Miami Herald. Par ailleurs, l'administration Trump a demandé ce mois-ci à la Cour suprême de lui permettre d'expulser plus de 530 000 immigrés venus de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua, autorisés, rappelle le Washington Post, à rester normalement aux États-Unis le temps d'examiner leur demande d'asile.
Merci beaucoup Catherine Dutu.